appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Marie Casadebet.
C'est l'heure de la libre antenne, comme tous les vendredis dans Appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel. On va vous entendre sur les sujets que vous avez choisis et n'hésitez pas à y réagir. Je vous rappelle le numéro, c'est le 33 9 693 693 70. Si vous nous appelez de France, c'est le 09 693 693 70. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos pages Facebook et Twitter. Beaucoup de commentaires et de questions d'ailleurs sur les réseaux sociaux autour de la démission du chef des casques bleus en Centrafrique. On va donc commencer par ce sujet. Nous avons François en direct de Bangui en Centrafrique. Bonjour François.
Bonjour Marie.
Quelle est votre réaction à la démission de Babacar Gaye, donc l'ancien chef des casques bleus en Centrafrique, qui a donc déposé sa démission après un nouveau scandale des casques bleus accusés de viol et d'avoir tué aussi un adolescent et son père?
Ben, c'est une satisfaction. C'est vrai que la démission arrive après beaucoup d'exactions, de viols, etc. On peut dire que c'est tard, mais c'est bien. Je suis vraiment satisfait que M. Gaye ait démissionné. Même si cette démission-là est réellement un limogeage, parce que je crois bien que c'est le secrétaire général qui lui a exigé cette démission. Oui. En tout cas, je suis satisfait.
Alors vous êtes satisfait, mais quelle image vous avez des casques bleus en Centrafrique? Est-ce que vous pensez qu'elle en a pris un coup, hein? On rappelle que le porte-parole de l'ONU a déclaré qu'il y avait 57 accusations de faute de la part des casques bleus en Centrafrique, dont 11 de potentiels abus sexuels sur enfants.
Tout à fait. Oui, l'image des casques bleus en prend un coup, ça c'est sûr. C'est qu'il faut. La démission ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des sanctions. Il faudrait qu'il y ait vraiment un toilettage sur l'ensemble des autorités, je veux dire des responsables de la MINUSCA ici en Centrafrique. Parce que cette démission, ça ne suffit pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait sanctions, qu'il y ait, qu'on essaie de voir si ces messieurs qui représentent les Nations Unies ici sont réellement des personnes de bonne moralité. D'où nécessité maintenant de vraiment trier sur le volet
finalement des enquêtes
dans des pays comme la RCA. Ouais.
Des enquêtes préalables finalement sur les membres de cette force avant qu'ils n'arrivent dans les pays, c'est ça que vous recommandez?
C'est ça que je recommande, parce qu'on a l'impression qu'il y a du clientélisme quelque part. Quand on les copte comme ça, c'est comme si c'était une bande de copains qui arrivent, parce que la RCA, bon, c'est un pays pauvre, c'est un pays abandonné, c'est un pays, etc. On a l'impression qu'il n'y a pas de respect. J'espère que cette démission, après tant de scandales, va pousser le prochain représentant des Nations Unies à beaucoup plus de modestie, hein, parce que j'ai l'impression, je suis pas le seul, que ceux qui viennent ici nous regardent de haut, sont arrogants, condescendants, etc. Ça va les pousser à beaucoup plus de modestie et d'humilité.
Alors Babacar,
et de respect.
Ouais. Babacar Gaye, François, donc, qui a été remplacé par Parfait Onanga Anyanga, c'est un Gabonais qui a été récemment envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Merci François. On va écouter maintenant Firmin qui nous appelle de Champigny-sur-Marne, près de Paris. Bonjour Firmin.
Bonjour Madame Casadebé.
Alors que vous inspire la démission de Babacar Gaye de la MINUSCA?
La démission de Babacar Gaye, vous savez Madame Casadebé, ça ne nous surprend pas du tout. Nous, Centrafricains, avisés et avertis des crises interminables que nous connaissons depuis 1996, que M. Babacar Gaye n'était pas vraiment dans ses compétences professionnelles dans l'analyse géopolitique et de l'histoire de la Centrafrique. Ce monsieur, nous avons dit dans les réseaux sociaux il y a longtemps, j'ai un ami qui s'appelle Guy José Cossa, l'avait déjà titré le 24 décembre dernier, Babacar Gaye doit partir.
Alors, mais pour quelle raison à l'époque, qu'est-ce que vous lui reprochiez?
Mais on lui reproche le personnel de l'ONU en Centrafrique se croit en terrain conquis. Ils ont des comptes à rendre à personne. La RCA est devenue un dépositoire pour ces gens. Ils viennent se soulager sur la souffrance centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons 10 800 casques bleus en Centrafrique, madame. Un quartier comme Boyerab, au kilomètre 5, 6 800 personnes, pas un arrondissement, je dis juste un quartier. 6 800 personnes ne peuvent même pas désarmer la poudrière de kilomètre 5.
Alors Catherine, Catherine Sombapanza, la présidente de transition, a quand même reconnu l'efficacité des casques bleus pour rétablir la sécurité à Bangui. Elle a souligné quand même le travail de Babacar Gaye, ce qui a été aussi le cas de Ban Ki-moon. Vous n'êtes pas satisfait, vous?
Mais non, mais pas du tout. Qui est satisfait du travail des casques bleus à Bangui? Madame Sombapanza, en tant que présidente, par intérim, elle assume que l'intérim de la transition, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Babacar Gaye n'a même pas de compte à lui rendre.
Bon, en tout cas, Babacar Gaye, lui, il est parti. Un remplaçant donc est arrivé, le Gabonais Parfait Onanga à Nyanga. On verra alors s'il fait mieux donc à la tête de la MINUSCA. Merci Firmin de nous avoir appelé de Champigny-sur-Marne, donc c'est près de Paris. On va changer de sujet maintenant avec Lucien qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Lucien.
Bonjour Marie.
De quelle actualité vous vouliez parler ce matin, Lucien?
Oui, moi je veux parler de la récente déclaration du président Idriss Déby qui promet que d'ici à la fin de l'année, Boko Haram sera éradiqué complètement.
Oui, c'était mardi, lors du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, effectivement. Il a fait cette sortie en disant, je cite, « Boko Haram est décapité, il y a des petits groupes éparpillés dans l'est du Nigeria, la frontière avec le Cameroun. Nous sommes en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram. » Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette sortie du président tchadien?
Oui, moi je pense que c'est une déclaration forte. Et qu'elle soit faite d'état du niveau d'Idriss Déby, qui est un grand guerrier, un militaire, j'ai des réserves à émettre quant à ces déclarations, même si je pense que faire une sortie médiatique comme celle-là suppose que le président Déby a assez d'éléments sur lesquels il s'appuie pour éradiquer Boko Haram d'ici à la fin de l'année.
Oui.
Et puis, il dit que Boko Haram est décapité, ça suppose qu'il comprend ce que ça veut dire. Est-ce parce que depuis un certain temps, il y a des rumeurs qui courent sur laquelle Sekou a été touché, et puis certains disent qu'il a été tué, tout ça, c'est pas trop. Mais dans tous les cas, moi, je constate que Boko Haram continue de perpétrer des attentats.
Alors, effectivement, Aboubakar. Lucien Aboubakar Sekou, effectivement, on n'a plus de traces de celui qui était le chef de Boko Haram. Mais hier, justement, Idriss Déby, le président tchadien, disait qu'il avait un successeur. Il a même donné son nom, Mahamat Daoud. Du coup, lorsqu'il dit que Boko Haram est décapité, vous avez du mal à y croire?
Non, enfin, je veux bien y croire. Je ne demande qu'à y croire. Mais seulement, moi, je constate que Boko Haram continue à avoir des succès. Il y a deux jours, dans mon pays, le Cameroun, il y a eu une attaque qui a causé la mort de deux soldats, puis 8 civils. Au Nigeria, il y a eu un attentat à la bombe il y a deux jours qui a fait une cinquantaine de morts.
Oui.
Bon, moi, je continue à avoir Boko Haram qui fait des dégâts, qui est toujours aussi performant qu'il a toujours été. Donc, moi, je vais faire confiance à la déclaration du président Déby. Autant j'attends de voir l'efficacité de la force nationale qui est en train de se mettre en place, justement, pour la cause.
Oui, 8 700 hommes qui vont donc arriver, 8 700 hommes, une force mixte pour se concentrer sur Boko Haram. Et c'est ça aussi qui fait dire au président nigérian Muhammadu Buhari que dans 3 mois la guerre contre Boko Haram sera terminée. Merci Lucien. Je voudrais donner la parole maintenant à Samuel qui nous appelle de Paris, qui voudrait aussi réagir aux déclarations d'Idriss Déby. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, écoutez, bon, j'ai ces propos, ça peut être rassurant, mais ça peut aussi avoir des effets pervers, c'est-à-dire avoir un effet démobilisateur, dans la mesure où si, effectivement, surtout encore après les déclarations du président Buhari, beaucoup de gens peuvent se dire, bon, maintenant, c'est Boko Haram, c'est fini, bon, il faut seulement attendre. Non, il ne faut pas attendre, il faut, au contraire, plutôt que de baisser la garde, il faut la renforcer. Parce que le mode opératoire de Boko Haram, hier au Nigeria, peut être indicatif de ce que, de l'affaiblissement de Boko Haram, sans que pour autant ce soit une preuve.
Pourquoi vous parlez de cet attentat au Nigeria? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est peut-être une nouvelle forme de violence?
Parce que justement, jusqu'à présent, c'était des bombes humaines. Ils envoyaient des petits enfants, pour se faire exploser, pour être assez sûr du résultat. Là, c'est une bombe placée dans un sac, dans un engin qui a explosé sur place. Ce qui peut être peut-être significatif d'un certain affaiblissement de Boko Haram. Cependant, je dis, il faut faire attention. Il faut faire attention, même s'ils sont affaiblis, même si Aboubakar Cheikhou a été remplacé, celui qui l'a remplacé, les nouveaux éléments vont chercher, même en position de faiblesse, d'affaiblissement, chercher à faire le maximum de dégâts. C'est là qu'ils deviennent plus dangereux.
En fait, vous avez peur, finalement, en ayant des propos très, très optimistes, qu'on se relâche, que la population aussi se relâche dans son aide donc aux forces de l'ordre, à donner des renseignements, à se méfier finalement un peu aussi de son voisin. Et vous avez peur que ça donne de l'espace finalement pour d'autres djihadistes?
Absolument, c'est ce que j'appelle effet démobilisateur. Mais il faut maintenir la garde, il ne faut pas baisser la garde. Parce que là, maintenant, on a plus que jamais besoin des gens qui peuvent donner des indications précises. Est-ce que Aboubakar Cheikhou a disparu vraiment? Son remplaçant, qui est-il? Quelle est sa capacité de nuisance, etc. Donc, il faut vraiment renforcer la garde. Et dans ces conditions, s'ils sont un peu affaiblis, mettre le maximum de pression pour décapiter le mouvement, hein, si c'est possible.
Mais il faut toujours faire attention. Oui. Merci Samuel d'avoir participé à notre débat, donc à ce débat sur Boko Haram et ses propos très optimistes, hein, du président tchadien, mais aussi du président nigérian sur la lutte contre le groupe islamiste. On va maintenant aller au Togo. C'est là que va se dérouler notre débat. On a Paul qui nous appelle de Anéouf. Bonjour Paul.
Oui, bonjour.
Alors, sur quel sujet d'actualité vous vouliez réagir, vous, Paul?
J'aimerais réagir sur la dernière sortie de Jean-Pierre Fabre. Sortie dans laquelle il disait qu'il a les preuves de sa victoire et tout ça là.
Oui, alors le leader de l'opposition, qu'on rappelle, Paul, pour ceux qui ne connaissent pas bien la politique togolaise, donc c'est le leader de l'opposition, le dirigeant de la coalition CAP 2015, et effectivement, mardi, il a donné une conférence de presse et il a à nouveau revendiqué la victoire à la présidentielle du 25 avril. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas entendu depuis longtemps.
Depuis 3 mois, on l'avait pas entendu, en effet.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour?
Je ne sais pas ce qui a motivé ce retour. Je suis de ceux qui ont voté pour Jean-Pierre Fabre, je le soutiens, et je suis comme l'immense majorité des Togolais qui veut que ça change enfin et que le Togo ne soit pas uniquement dirigé par Daniel Simbé. Ceci étant, nous sommes des gens, des citoyens qui attendent du concret de nos dirigeants. Et moi, j'attends particulièrement de Jean-Pierre Fabre, pas que des discours, quoi. Et que s'il a les preuves, qu'il les sorte finalement, et qu'il saisisse les instances compétentes, et qu'on avance sur le sujet, quoi.
Alors, c'est vrai, c'est que les autorités togolaises lui demandent aussi des preuves, puisque à l'époque, il disait qu'il y avait eu 16 circonscriptions litigieuses sur 42. Et donc, il disait que si on écartait ces 16 circonscriptions, eh bien, les résultats le donnaient en tête. Et il n'a jamais, effectivement, apporté de preuves, ou en tout cas, il n'a pas porté ses litiges devant la Cour constitutionnelle. Pour vous, il faut passer à autre chose. Finalement parler politique.
C'est-à-dire que, bon, avant de parler, de passer à autre chose, on a besoin de voir sur Internet ou qui veut, dans des presses, le pesé de toutes les commissions électorales indépendantes, locales et indépendantes, qu'on fasse, que le peuple fasse ses calculs lui-même et qu'on sache ce qui a gagné selon Jean-Pierre Fabre, quoi. On veut pas que des discours, quoi. Et après, qu'est-ce qu'il revendique la victoire? Que CAP 2000 saisisse les instances compétentes, et notamment le tribunal de la CDAO, et qu'on avance sur le sujet, quoi.
En tout cas, à l'époque, Paul, l'ONU avait déclaré ses élections crédibles, libres et transparentes, ce qui n'avait pas été le cas en 2010. Il y a Jean qui nous appelle de Houille, en région parisienne, qui voudrait aussi réagir. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Marie.
Alors vous avez soutenu aussi la campagne, vous l'avez soutenu en tout cas financièrement, la campagne de Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors ce retour, effectivement, on ne l'avait pas entendu pendant plusieurs mois, il revient et il réclame à nouveau la victoire donc de cette présidentielle remportée par Faure Gnassingbé.
J'ai soutenu, comme vous l'avez dit, effectivement, la campagne de Jean-Pierre Fabre. Et moi, j'estime que la comédie a assez duré au Togo. Mm. Que l'opposition soit responsable cette fois-ci. On ne va pas toujours nous jouer la même musique, élection présidentielle à un tour, sans réforme, et puis venir les contester après. Si Jean-Pierre Fabre a la preuve qu'il a gagné les élections, il les montre. Mm. Et on continue, parce que à force de réclamer, de revendiquer la victoire pendant 5 ans, en 2020, on ira aux élections sans réforme. L'actualité politique aujourd'hui au Togo veuille qu'on parle des réformes institutionnelles, constitutionnelles, qu'on mette en place ces réformes avant toutes les autres élections, qu'on fasse des élections locales.
Vous demandez donc à Jean-Pierre Fabre de vraiment réellement porter la bille de l'opposant, qu'il reparle politique plutôt que polémique.
On a assez de ces opposants rigolos qui passent tout le temps à marcher. Non, les Togolais veulent des réformes. Mmh. Et ça a été dans un sondage, on veut des réformes. Que Jean-Pierre porte la bille, je veux des réformes, je veux des élections locales. On le soutiendra, on ira. Les élections, c'est terminé, il faut passer à autre chose. On ne va pas passer tout le temps 5 ans pour marcher, revendiquer des élections. Et dans 5 ans, on fera encore des élections à un tour, sans réforme, sans rien. Et on va encore manifester. Mais les Togolais sont en assez.
Vous dites qu'il faut maintenant se tourner vers l'élection de 2020. Merci Jean de nous avoir appelé de Houille. On va maintenant revenir au débat qui vous a fait beaucoup réagir, celui d'hier sur le rapport entre les jeunes Africains et la politique, après la sortie d'un sondage qui disait que les jeunes Africains s'intéressaient à la politique mais ne s'impliquaient pas. Et on a Chantal qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Chantal.
Bonjour Marie et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors vous Chantal, vous êtes jeune, vous avez 27 ans et vous êtes impliquée en politique puisque vous êtes candidate au provincial dans le Nord Kivu. Alors est-ce que ça a été compliqué de vous faire entendre? Parce qu'hier on entendait beaucoup de jeunes dire que c'était pas évident d'être crédible, de se faire entendre auprès des plus anciens. Quel a été votre parcours et peut-être vos difficultés?
Merci beaucoup. Comme vous avez dit, je suis candidate dans la ville de Goma au Nord Kivu. C'était pas facile d'avoir un siège au niveau de la liste du parti. Donc, il faut faire preuve d'un background assez riche pour se faire inscrire sur la liste d'un parti politique. Et donc, je suis candidate pour le compte de l'ADER, l'Alliance pour le Développement et la République. Et donc, je fais preuve de mon expérience d'une association que je dirige à Goma, OEMA. En plus de cela, je suis engagée dans la lutte pour les changements. Je suis impliquée dans des mouvements de jeunes, des associations de la société civile. Donc, je fais preuve de cela pour être accréditée sur la liste du parti.
Quel conseil vous donneriez, Chantal, alors à tous ces jeunes qui trouvent que finalement tout est bloqué, c'est pas la peine d'essayer parce que c'est place aux plus anciens ou place aux héritiers, comme il disait hier. Quel conseil vous donneriez? Comment on fait pour faire de la politique quand on est jeune?
Je pense que les jeunes devraient s'impliquer massivement parce que c'est les piliers de la société. Mmh. Nous devons aimer notre pays, nous devons nous engager et nous battre. Ce n'est pas facile, ce ne sera pas donné sur un plateau doré. Mais il faut faire preuve de ses compétences. Et là, nous avons beaucoup de problèmes à relever dans nos pays respectifs. Il y a la dignité humaine et la justice sociale. Ce sont des problèmes pour lesquels nous débattons chaque jour, mais nous ne nous impliquons pas pour que ça change. Et donc, on a réussi beaucoup de notre pays, de nos villes respectives, mais nous devons aussi donner, nous devons nous consacrer entièrement au progrès de nos villes, de nos pays respectifs.
En tout cas, à vous entendre, Chantal, en tout cas, la première étape pour entrer en politique, c'est de faire partie d'une association. Hier aussi, nous avons des témoignages en ce sens. Merci beaucoup d'avoir participé tous à la Libre Antenne. Désolé à ceux qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Lundi, nous lancerons le débat sur la présidentielle au Burkina Faso. Les candidats ont jusqu'à vendredi prochain pour déposer leur dossier. Alors, quelle sorte de candidat souhaitez-vous pour cette première élection démocratique?